Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7,
6,
5, 4, 3, 2,
la radio sauvage. 1,
0.
Quelle heure est-il ?
6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures.
Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab,
la radio sauvage.
Bonsoir à toutes et à tous, il est 6h avant minuit, vous écoutez l'émission d'actualité locale de Syllab. C'est notre dernière émission avant de prendre une petite pause bien méritée pour les vacances de la Toussaint. Je voulais d'ailleurs en profiter pour revenir sur les origines de cette fête, la Toussaint. Aujourd'hui, elle marque surtout un jour férié, mais à l'origine, cet événement catholique avait pour but de commémorer tous les martyrs en remplacement de la fête païenne des Lémuria. Pendant la Rome antique, tous les 13 mai, cette célébration visait à conjurer les lémures des spectres malfaisants. Plus tard, elle a été déplacée au 1er novembre pour célébrer tous les saints, la Toussaint. Un changement de date choisi, selon les historiens, pour christianiser la fête de la Samhain, autre événement folklorique païen. Samhain, c'était en quelque sorte le nouvel an des Celtes, célébré aux alentours de la fin octobre, du début de novembre. Elle marquait le moment de l'année où la frontière entre le monde des morts et celui des vivants est la plus fine. On avait alors l'habitude de se grimer en démon pour se faire passer pour l'un d'eux et donc échapper aux mauvais esprits. C'est d'ailleurs de là que vient la tradition de porter des costumes effrayants lors d'Halloween le 31 octobre. Halloween, nommé d'après l'anglais All Hallows Eve, la contraction de The Eve of All Saints Day, la veillée de la Toussaint. Bref, je m'arrête là pour ce mini décryptage historique vraiment très 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 résumé, mais je vous invite à vous renseigner sur les origines de cette fête américanisée et de cette célébration chrétienne. Toutes deux naissent en fait de magnifiques rites païens qui nous invitent à célébrer l'arrivée de l'hiver et la mémoire de nos ancêtres disparus. Tout de suite, le flash de Cyriane.
100 millions d'euros, c'est la somme qui devrait être pour le moment débloquée par la France pour venir en aide au Liban, a annoncé hier Emmanuel Macron. L'Independent Task for Lebanon déplore pour le moment des pertes économiques liées aux assauts israéliens pouvant aller jusqu'à 18,5 milliards d'euros. À Gaza, l'Organisation mondiale de la santé a annoncé hier le report d'une campagne de vaccination contre la polio. L'OMS déplorant des bombardements intensifs, des ordres de déplacement massifs et une absence de pause humanitaire assurée dans la majeure partie du nord de la bande de Gaza. Et ce, après la découverte du premier et pour l'instant unique cas recensé dans la région en 25 ans. Je veux que toutes les femmes victimes de viol se disent « Madame Pellicot l'a fait, on peut le faire ». Je ne veux plus qu'elles aient honte. La honte, ce n'est pas à nous de l'avoir, c'est à eux. C'est ce qu'a affirmé hier Gisèle Pellicot devant la cour criminelle du Vaucluse. La septuagénaire a pris pour la deuxième fois la parole depuis le début du procès lors de ce jugement fleuve. Était cette fois-ci présent face à elle son ex-mari Dominique Pellicot. Elle a notamment déclaré « J'entends beaucoup de femmes et d'hommes qui me disent « Vous avez énormément de courage ». Ce n'est pas du courage, c'est de la volonté et de la détermination pour faire avancer cette société. » À Rennes aussi, on veut la faire avancer, cette société. En témoigne le festival Dangereuse Lectrice, un événement célébrant la littérature féministe intersectionnelle. Élise était présente lors de cette sixième édition consacrée aux luttes d'hier et aujourd'hui. 100 ans après le mouvement des peines sardines de Dordogne, RPZ, réclamant de meilleures conditions de travail.
Voilà.
Merci beaucoup.
J'espère que ça te plaira. Ouais, merci beaucoup.
Participant à la dernière journée du festival, j'ai questionné plusieurs personnes sur l'importance des écrits dans la lutte féministe. Je suis d'abord allée rencontrer Laetitia Fignasio, présente au festival Dangereuse Lectrice, car elle sort son premier livre aux éditions Fier.
C'est important parce que ça laisse des traces déjà, donc ça permet... on en a un petit peu parlé pendant le festival, je pense, de l'importance des archives et à quel point parfois c'est difficile aussi d'en avoir et qu'il faut parfois les refaire a posteriori, du coup c'est... On n'a pas de... En fait, les écrits permettent des traces, déjà. Des traces de nos témoignages, des témoignages qui... Je dis nos, évidemment, mais personnes, du coup, queer et LGBTQIA+.
Une festivalière présente sur tout le long du festival nous donne également son point de vue.
Je pense que c'est essentiel dans les luttes intersectionnelles pour essayer de sortir un peu, pour ce qui est des littératures de l'imaginaire, du schéma du héros masculin, blanc, hétérosexuel qui va réussir à sauver le monde. Prétendument tout seul, alors que bon, il y a quand même des personnages qui peuvent l'aider. Donc essayer de varier un peu sur les représentations pour que chacun, chacune puisse avoir des modèles dans lesquels se reconnaître.
Moi je suis Mandy, je suis libraire à la Nuit des Temps. En fait, les écrits, c'est ce qui permet aussi de faire un point, je trouve, sur les pensées qu'il y a actuelles, contemporaines, etc. Mais ça permet aussi de revenir sur ce qui a déjà été fait avant. Ce qui a déjà été dit avant, ce qu'on a appris des luttes précédentes et comment on peut utiliser ces écrits-là aussi au quotidien. Je trouve que c'est aussi un moyen de toucher un public aussi. De manière générale, je pense que le livre est un moyen de lutte à part entière.
Et oui, car comme nous le dit Mandy, en dehors de l'aspect individuel de la lecture, les écrits servent aussi à lutter ensemble.
Merci Élise pour ce beau reportage. Des exploits à relever en Ligue des Champions. Les Dogs de Lille se sont imposés hier soir à Madrid 1-3 sous les projecteurs d'un Metropolitano électrique. De leur côté, les Brestois d'Éric Roy ont tenu tête jusqu'au bout aux champions allemands du Bayer Leverkusen. Résultat 1-1 dans un stade de Roudourou en feu.
Cyriane, tu es allée à la cathédrale Saint-Pierre de Metz, mais pas pour la messe. Il s'y tenait mercredi dernier un exercice incendie un peu particulier.
En ce mercredi pluvieux, ce ne sont pas les cloches, mais les alarmes qui retentissent dans la cathédrale Saint-Pierre à Rennes. Pas d'inquiétude, tout est sous contrôle. L'événement, un exercice incendie pour coordonner les différents services de l'État en cas de sinistre. Un dispositif important piloté par la préfecture et en collaboration avec la DRAC, Direction des Affaires Culturelles de Bretagne, et le SDIS 35. Le colonel Malfait détaille.
Là, sur cette opération, il y aura 40 sapeurs-pompiers qui seront engagés. On aura une dizaine de véhicules qui seront mobilisés, en sachant qu'en fonction de l'étendue du sinistre, en conditions réelles, bien évidemment, on pourrait monter en quantité le nombre de personnels présents sur place.
Un type d'opération qui, à l'échelle nationale, ne date pas d'hier, explique Isabelle Chardonnier, directrice générale des affaires culturelles de Bretagne.
C'est un exercice qu'on réalise dans l'ensemble des cathédrales françaises, dans le cadre du plan de sécurité des cathédrales que le ministère de la Culture a mis en place au lendemain de l'incendie de Notre-Dame de Paris en 2019, avec des mesures que nous mettons en œuvre dans chacune de nos cathédrales. Il y en a 4 en Bretagne, à Vannes, à Quimper, à Saint-Brieuc et donc à Rennes.
C'est la première fois que ce plan a été mis en pratique, un plan aux finalités bien précises.
L'objectif, c'est de se tester sur 2 axes. Le premier, c'est l'incendie en toiture, avec la particularité de la hauteur de ce type de bâtiment à forte valeur historique et culturelle.
Un drone équipé d'une caméra a même été déployé ce jour-là.
Et puis de tester le plan de sauvegarde des biens culturels avec l'évacuation des œuvres. Et donc tout le processus qui nécessite à la fois de les retirer en sécurité, de les positionner à l'extérieur sans qu'elles soient abîmées, et puis ensuite les reconditionner, les retrouver dans un espace qui soit dédié à cela.
Tout au long de l'après-midi, Cécile Houlin, conservatrice des monuments historiques au sein de la DRAC, supervise les sapeurs-pompiers et pompières en charge de transporter le trésor national.
Et puis aussi de travailler sur les œuvres qu'on ne pourra pas sortir en raison de leur dimension. Et l'objectif, c'est de pouvoir installer par-dessus des équipements qui vont les protéger des effets de l'incendie et également du risque lié à la projection d'eau.
Pour ce faire, des bâches ignifugées sont disposées sur les statues ou encore tombeaux qu'abrite la cathédrale. Merci à moi-même pour ce reportage absolument exceptionnel.
Oui.
Comment ?
Bon. Tranquille, hein, ça va aller, je finis.
J'avoue, je redescends.
Bravo, Cyriane.
Je redescends, merci. Détenu au Groenland par le Japon pour son combat contre la chasse à la baleine, le militant écologiste Paul Watson demande l'asile politique à la France. Son avocat évoque l'importante façade maritime de l'Hexagone. Et oui, souvenez-vous de vos cours passionnants de géographie au collège. Notre pays est la deuxième plus grande ZEE, zone économique exclusive, du monde. En attendant, moi j'en connais une qui, elle, n'a pas attendu que sa demande d'asile soit acceptée par l'État pour vaguer aux abords des côtes brétiliennes. En effet, c'est une baleine à bosse qui a été aperçue hier par des pêcheurs dans la baie de Saint-Malo. Sa visite est reçue comme une bonne
elle
nouvelle.
Elle est là,
elle est avec nous. Les baleines... Les baleines ne vivent pas dans la Manche, mais cela fait partie de leur corridor. entre l'Atlantique et la mer du Nord en période de migration. Cela n'a rien d'étonnant ni d'inquiétant. Elles avaient disparu en Manche en raison de leur quasi-extermination, se réjouit Morgan Perry dans les colonnes de Ouest France. Mammifères qui sont de plus en plus observés dans la Manche.
Tu savais que écouter des chants de baleines, c'était très bon pour la relaxation syrienne ?
Oui, j'en écoute tous les soirs. Mmh. C'est pour ça que j'en parle autant
ça
à la radio.
Sent, ça se sent.
Mmh, je suis une personne très détendue.
Ouais, zen.
En attendant, il y en a qui sont un peu moins détendus, hein, parce que troquant les gants pour les micros, c'est sur un ring que de multiples artistes de la scène rap rennaise ont rendez-vous pour une soirée riche de punchline ce samedi à l'étage à partir de 19h. À l'affiche notamment le retour des Micronologies ou encore le très, très, très énergique Randy, maître de cérémonie ce soir-là.
Merci Cyriane pour ce flash de qualité. Nous avons deux invités très rock en studio ce soir.
Quelle heure est-il ?
6h.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
Et à minuit, plus personne.
6h avant minuit.
Casquette un peu dandy, comment on dit
série, une gapette.
Ouais. Sur la tête. Et bonnet. Chacun leur couvre-chef. Pierre L'Espérance est président du festival Rock sur Meux et Bastien Cognac est coordinateur bénévole de ce même festival. Rock sur Meux, on ne parle pas de vaches qui font de la guitare, hein, mais bien d'un festival très rock à Montfort-sur-Meux. Vous êtes à la tête de Hard Calling Records, Pierre, l'asso organisatrice du festival. Est-ce que pour commencer, vous pouvez nous expliquer les activités de cet asso, son origine ?
Ouais, mais bien tout d'abord bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de nous recevoir
avec
ici
plaisir.
À CELAB, ça fait plaisir. C'est notre troisième radio en deux semaines, donc on commence à connaître un petit peu les rouages, donc c'est cool. L'association a été créée du coup il y a maintenant 5 ans à Rennes, pas loin de Rennes 2, de ce bâtiment et rêve. Une association du coup qu'on a montée il y a 5 ans pour pouvoir promouvoir la scène métal rennaise. Donc à la base c'était vraiment très spécialisé. Metal, donc par l'organisation de concerts dans les bars concerts de Rennes, hein, le Feu, Mondo Bizarro, le Barrick, le Marquis Sade, etc. Et pour soutenir aussi les artistes d'un point de vue discographique en leur proposant un soutien financier lorsqu'ils souhaitaient sortir un album, un EP. Donc voilà comment a été créée l'association en février 2019.
D'accord. Et plus pour revenir sur l'événement, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment s'est passée la préparation de cette 4e édition du festival et qu'est-ce qui a évolué par rapport à la première édition ?
Eh ben pour prendre un peu le flambeau, donc je me présente, je suis Bastien, le coordinateur bénévole du Festival de Rock sur Meux. En termes d'évolution, on a eu une certaine évolution, notamment dans la participation des bénévoles en amont du festival avec la création d'ateliers durant lesquels les bénévoles ont pu, en petits groupes, concevoir des objets, redécorer des meubles à l'image du festival. Donc ça, c'était la grande nouveauté de cette année, qui a très bien fonctionné, dont on est très fiers. Donc voilà, les festivaliers pourront voir cette année tout un décor qui dépasse le cadre de la scène, mais qui va habiller toute la salle du Confluent cette année.
Super.
Niveau de... Allez-y.
Oh non, j'avais à peu près fait le tour pour les nouveautés. Si, on a aussi évoqué notre éthique de mixité, notamment homme-femme. On cherche de plus en plus à équilibrer la balance au niveau des bénévoles. Et cette année, on arrive presque à une mixité parfaite. Et pour se refaire un peu sur cette même vague, la grande nouveauté de cette année en termes de bénévolat, c'est la création d'une commission VSS, violence sexiste et sexuelle, donc qui sera pilotée par 3 bénévoles qui ont été formés et qui vont pouvoir faire des actions de prévention en amont, pendant et après le festival.
D'accord, du coup vous nous parlez de la parité chez les bénévoles, c'est ça ? Au niveau de la programmation, du coup, la parité, c'est pas exactement ça. Donc, je voulais savoir si c'était une volonté à venir d'avoir une parité au niveau de la programmation et si, justement, c'était difficile à atteindre.
Alors, on a vraiment cette volonté, depuis le début de l'association, d'essayer d'avoir une représentativité féminine sur scène, ce qui est un gros, gros défi dans la scène rock parce que, malheureusement, il y a une grande majorité masculine et c'est hyper dur de trouver des formations avec des femmes sur scène. Donc, tous les ans, on essaie d'avoir une part la plus importante que l'on puisse avoir dans la possibilité de nos moyens. Tous les ans, voilà, sur une vingtaine d'artistes, on arrive à avoir 4, 5, 6 femmes maximum. On essaye de faire au mieux. Mais voilà, on espère que justement la représentativité féminine va donner envie à des femmes de se lancer aussi dans la musique, de créer de plus en plus de groupes mixtes, masculins, féminins. Et donc du coup, on va réussir, je pense, d'ici quelques années à avoir une mixité un peu plus équitable, j'espère en tout cas.
On espère. Et pour revenir sur les groupes, pourquoi cette importance de programmer des groupes locaux ?
Alors vraiment, la volonté du festival, c'est d'être ancré sur son territoire. Hein, c'est le fameux ancrage territorial. Nous avons réussi à le placer une troisième fois, je suis très content.
Bingo !
Bingo ! Non, c'est vrai que le but, c'est de permettre aux artistes locaux d'avoir une visibilité sur leur territoire. Parce que c'est vrai qu'on a de plus en plus de gros festivals qui laissent la part belle aux artistes étrangers, ce qui est super bien. Mais du coup, il y a beaucoup d'artistes locaux qui se sentent lésés de ne plus avoir leur place dans les événements du coin. Donc nous, on veut prendre ce parti pris de ne programmer que des groupes de la Bretagne à 5 départements. Je prends le risque de le dire.
On va peut-être se recevoir d'emails d'insultes. Qui sait. On vous les fera suivre.
Oui, ça marche. Et donc voilà, donc cette année, on fait des groupes nantais, des groupes fougerais, briochins, rennais, Montfortet aussi, hein, ce qui nous permet de renforcer un peu plus trouver un synonyme d'ancrage territorial, c'est très difficile tellement j'ai l'habitude de le dire.
Et la voilà. Valorisation des talents locaux.
Mais tout à
c'est
fait
ça.
Super.
Non, c'est top. Et est-ce que vous pouvez nous parler des groupes et pourquoi vous les avez choisis eux justement ?
Ouais, bah en fait la programmation, voilà, on l'a fait toute l'année hein, par rapport à nos activités, vu qu'on organise en fait des concerts toute l'année, toujours dans les bars concerts de Rennes. Donc on est un peu moins spécialisé métal, mais maintenant on fait plus rock généraliste, hein, du punk, du rock, du indie, du métal aussi, on arrive à en refaire de temps en temps. Et en fait, voilà, au fur et à mesure, on repère des groupes. Avec Bastien, on est aussi musicien dans des groupes de rock, punk et métal, ce qui nous permet de rencontrer des groupes sur la route et de construire au fur et à mesure notre programmation. Donc là, cette année, on aura à nouveau 5 groupes, hein, comme depuis les 4 dernières éditions du festival, avec du punk, du rock français, du heavy, hard rock.
Et du rock celtique.
Et du rock celtique, ouais. Vraiment, le but, c'est de dépeindre toute la richesse de la culture rock pour permettre au public, en fait, de ne pas s'ennuyer et qu'il soit connaisseur ou non du rock, de découvrir plein de styles et donc, du coup, de passer une soirée qui est enrichissante pour le public, quoi, connaisseurs ou non connaisseurs.
Pour revenir sur le choix du coup des producteurs locaux, on peut noter des animations sur la présence du festival, des animations avec des producteurs locaux sur tous les stands. Du coup, c'est toujours cette idée de l'ancrage local, de valoriser.
Ouais, exactement. Alors là, du coup, on aura des stands Montfortet, parce que cette année, on aura le plaisir d'accueillir les Roms de l'Intrigue, qui est une, je ne sais pas comment on dit, mais une fabrique artisanale de rhum, donc qui voilà. Nous ont fait une bouteille spéciale Rock sur Meuse cette année, mangue fraise, délicieuse, hein, très ancrée avec le Rock sur Meuse, puisque les fraises sont locales, ouais. C'est très accessible en termes de goût, on a pu le goûter le matin à 10h, un samedi matin, c'est waouh.
Enfin
bref, on aura aussi Mass Prod qui viendra, hein, le célèbre label de punk de Rennes. Et puis on aura Massacre Production, qui est un fanzine qui est basé à Vitré, qui vient depuis deux ou trois années, je ne sais plus précisément, pour pouvoir présenter l'actualité locale de la scène rock underground. Et je ne sais plus les autres, puisqu'on en a plusieurs aussi, mais voilà, les principaux en tout cas, et toujours Rennais, Vitréen, Montfortet, l'ancrage. Ancrage.
Et au-delà des stands aussi, la nourriture, puisque les galettes et les crêpes sont réalisées par un artisan de Montfort-sur-Meuse, donc c'est directement pris dans sa boutique et acheté auprès de lui, tout comme la boisson également. Donc voilà, de A à Z. Ouais,
effectivement, ça donne envie. Et sur le nombre de personnes, est-ce que vous avez déjà à peu près le nombre de personnes qui sont attendues et est-ce que vous avez un objectif que vous voulez atteindre ?
Ouais, l'année dernière, on a pu accueillir 300 personnes. Donc ce qui était déjà pas mal, hein. On a une capacité de 500 personnes, donc d'année en année on est en progression, 150, 200, 250, là du coup la suite logique serait de passer à 350 personnes, là les préventes s'accélèrent pas mal ces derniers temps, là on a vendu une cinquantaine de préventes aujourd'hui, donc c'est plutôt chouette, que voilà, généralement ça s'accélère vraiment sur les toutes dernières heures avant l'ouverture du festival. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre vos places en pré-vente sur Eloasso, 10 € en pré-vente, 12 € sur place. Il y aura évidemment de la place directement à l'entrée du festival. Ça m'étonnerait qu'on fasse un sold out.
Salle comble, mmh. Ouais, je pense pas.
C'est en salle, hein, il faut le préciser, c'est
ouais,
ça.
Oui, exactement. Parce qu'on a bien vu que les événements extérieurs cette année, ça a été un peu compliqué cet été.
Et encore plus fin octobre, donc.
Ouais, mmh. Donc on ne prend pas de risque, on est très très bien dans une salle qui est hyper accessible, hyper agréable, une très bonne acoustique. Et voilà, ce sera un vrai régal pour les oreilles et pour les yeux aussi, avec un gros parc lumière prévu cette année.
Justement, j'allais vous poser la question, au niveau de la scène, qu'est-ce qui est prévu? Est-ce que c'est une scène classique en face d'une fosse, ou est-ce qu'il y a plus de places assises? Qu'est-ce que vous avez prévu?
Ouais, et bah, du coup, on aura une grosse partie fosse. Hein. En fait, normalement, la salle du Confluent dans laquelle on organise, elle est à moitié avec des gradins, à moitié sans gradins. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on enlève tous les gradins, ce qui nous permet franchement d'avoir une fosse assez conséquente et également d'accueillir plus de personnes. Mais pour les personnes qui ont envie de s'asseoir, eh ben, il y aura des tables, des chaises, un petit peu en mode bistrot. On voulait garder un peu ce côté bar-concert qu'on peut avoir depuis la première identité du festival, de l'association plutôt. Mmh. Donc voilà, les gens ils pourront manger leurs galettes saucisses frites devant la scène, qui est une scène plutôt conséquente. Hein, 17 mètres de large, 10 mètres de profondeur. Mmh. On a plutôt de la chance sur la superficie.
Ça ouais. Reste correct. Et au niveau de l'accessibilité, je ne connais pas du tout le village du festival. Et est-ce que vous savez si c'est accessible autrement qu'en voiture, si par exemple il y a des transports en commun ou quoi?
Alors c'est un petit peu la difficulté de Montfort-sur-Meuse, c'est qu'on ne fait pas partie du réseau Star. Donc malheureusement, les bus n'acheminent pas jusqu'à la salle du Confluent. Néanmoins, on a quand même le train qui est plutôt bien desservi en gare de Montfort. Après, voilà, malheureusement, il n'y a pas de train retour. C'est pour ça qu'on préconise au maximum... la voiture, le covoiturage surtout. Hein. On a une page spécialisée sur Facebook pour amener les gens à venir en covoiturage. Il peut avoir le bus aussi, si vous avez quelqu'un qui peut venir vous chercher à la Chapelle Thoireau, Ville aux Archers, le 53, nous on connaît, c'est notre base, à la Chapelle Thoireau. Voilà, sinon, il y a le réseau Bresgo aussi. Et voilà, la difficulté, c'est toujours qu'il n'y a pas de bus, malheureusement, le soir. C'est vraiment une possibilité qu'il va falloir... qu'on travaille pour les prochaines éditions. Mmh. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire un partenariat avec Bresgo pour pouvoir faire revenir les gens sur Rennes par la suite?
Ou un camping pour que les gens dorment sur place et repartent le lendemain, peut-être.
Ouais, ça pourrait être une solution. Après, c'est vrai que fin octobre, un camping, ça peut être...
Avec le rhum
ouais.
Précédemment cité, ça va, c'est une
Mais
bonne
idée. Mais c'est une très bonne idée, ça.
Et puis même, ça vous incite à faire deux jours de festival en plus.
C'est ça.
Ouais, mm-hmm. Ça on aimerait beaucoup. Alors, on essaye déjà de pérenniser le festival financièrement parlant. Mm. Parce que là, pour le coup, on a toujours été déficitaire ou un peu limite-limite. Donc déjà, on va essayer de bien stabiliser le festival. Et peut-être d'ici 2 ou 3 ans, passer sur un format de soirée.
Okay.
Ça serait l'idéal, ce serait trop cool. Mais l'avenir nous le dira.
Et au niveau du financement, justement, comment vous financez le festival?
Est-ce que tu veux parler, Bastien?
Oh bah, tu pourras revenir sur les subventions. Moi, j'ai surtout parlé de ce qui se passe au moment du festival. Donc, les principaux revenus, c'est la billetterie et le bar. Le bar, dans un festival de rock, ça marche très, 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 très bien.
Sans doute.
C'est, grosso modo, c'est le revenu principal qui fait plaisir quand il faut faire les comptes. Donc voilà, on a aussi la restauration, bien sûr. Avec une offre qui peut combler tout le monde. Il y en aura assez pour tout le monde. Galettes, saucisses, frites, des desserts, des crêpes, des cookies. Donc, on a la restauration, la buvette, la billetterie. On a aussi un stand merchandising avec quelques objets à l'image du Rock sur Meuse et de l'association Hard Calling Records. Donc voilà pour les rentrées au moment du festival. Après, c'est vrai qu'il y a des subventions de la municipalité, des subventions de la communauté de communes pour nous aider. Je ne sais pas si Pierre, s'il y a autre chose que j'ai oublié.
Non, tu as totalement raison. C'est vrai qu'au niveau des subventions, d'année en année, les collectivités territoriales commencent à avoir confiance en nous, ce qui n'était pas forcément le cas au tout début. Parce que quand on a débarqué avec un festival de rock dans la petite ville pépère de Montfort-sur-Meuse, au début, on ne nous a pas trop fait confiance. On nous a mis 2-3 bâtons dans les roues. Après, voilà, pas de problème.
Hein. Ça s'est arrangé.
Nous, on a tenu, on a serré les dents. Et maintenant, au contraire, on vient nous apporter des subventions de la part de la commune de Montfort, Montfort Communauté. Certains partenaires commencent à nous faire du mécénat aussi. Donc, on commence à avoir une trésorerie qui nous permet d'arriver plus serein sur l'événement. On a pu faire quelques buvettes aussi tout au long de l'année sur des événements en partenariat avec la ville de Montfort.
Notamment au forum des associations
ouais, exactement,
de la ville de Montfort,
ouais.
On a tenu la buvette, donc une rentrée quand même
assez sympa, conséquente. Ouais. Ouais. Donc c'est vrai que c'est, plus ça va et plus on commence à avoir les reins solides et plus d'assurance avant d'attaquer le festival où là avant on n'avait rien, on partait de but en blanc et si on se crachait c'était un crash total. Là, un crash test total. C'est une petite private joke. Voilà, maintenant où il n'y a plus qu'à samedi, dans maintenant 48 heures, on sera en plein boulot.
Et on est serein.
Ouais.
Donc, comme vous avez les aides de la ville, tout ça, on suppose qu'il y aura une cinquième édition, c'est ça ?
On espère. Déjà, on essaye de boucler cette quatrième édition. Évidemment, en termes de programmation, j'ai déjà des trucs en tête pour la cinquième édition. Donc, fait comme si on était déjà parti sur cette cinquième. On se doute qu'il y en aura une. Après, chaque chose en son temps, step by step, qu'on essaye de déjà boucler cette édition. Et 2025 sera une nouvelle année.
Très bien. Et du coup, sur la quatrième édition, vous avez une super affiche cette année avec un squelette, avec un tympan, avec le tympan d'une église qui écoute de la musique avec un casque. Est-ce que vous savez qui a fait, je suppose que oui, vous savez qui a fait l'affiche ?
Ouais. Alors franchement, cette année, on a une magnifique affiche. En fait, le tympan de l'église, c'est l'abbaye de Montfort-sur-Meux. Parce qu'en fait, tous les ans, à chaque nouvelle affiche, il y a ce côté patrimoine montfortais et côté rock. Donc le rock, c'est le squelette. Patrimoine Montfortais, et bah cette année c'était l'abbaye de Montfort-sur-Meux qui est un des éléments un des éléments patrimoniaux les plus importants de la ville de Montfort. Donc voilà ce côté ancrage territorial.
Absolument.
Et cette année en fait, comme depuis le début de l'association, ce sont des amis à nous qui sont graphistes professionnels et qui nous offrent tous les ans cette magnifique affiche. Donc voilà, ça fait déjà 4 affiches pour le Rock-sur-Meux, plus toutes celles qu'on a pu faire pour les bars-concerts de Rennes. Donc franchement, ils nous ont fait des très très beaux cadeaux.
Ils nous régalent.
Ouais. En plus, cette année, on est dans la thématique Halloween en termes de couleurs. Alors ça claque.
Génial. Et du coup, comme le festival est un festival de rock, le rock, c'est pas la musique la plus écoutée en France malgré tout. Rennes, ça reste une terre de rock, même métal, avec beaucoup de groupes, d'événements et de concerts, comme le vôtre. Est-ce que vous savez expliquer pourquoi Rennes, justement, ça reste une terre de rock et surtout pourquoi vous, justement, vous voulez perpétuer ça en créant un festival de rock et non pas comme les autres festivals qui continuent à changer leur programmation vers d'autres styles musicaux.
Oula, vous parlez à un spécialiste.
Ah, c'est très marrant parce que j'ai fait mon mémoire sur l'histoire du rock à Rennes et sa notion du patrimoine, ce qui a inspiré évidemment le festival. J'ai perdu la question. Pourquoi on veut rester dans le rock, c'est ça ?
Ouais.
Parce que ça reste notre passion vraiment depuis le début. Hein. Franchement, avec tous les membres de l'association, on s'est rencontrés autour de cette esthétique musicale. Et comme on a un territoire qui est depuis 1977 une terre de rock, grâce au Marquis de Sade, à toute la scène punk hardcore des années 90, la scène new wave des années 80, on a toujours eu un bouillonnement culturel. On l'a toujours avec des groupes comme Clavicule Actuelle, les Guadalteras, etc. Et nous, on a vraiment envie de garder cet ancrage dans la scène rock et de perpétuer un petit peu cette tradition et ce patrimoine rock rennais et breton. Donc c'est à aucun moment, et ça n'a jamais été une idée de passer à autre chose. Notre festival s'appelle Rock-sur-Meux. Malheureusement, il y en a beaucoup trop des festivals qui s'appellent Rock Machin et qui ne font plus de rock.
J'en connais, alors, oui.
On ne les citera pas, mais bon, c'est toujours, je trouve, moi, ça m'écorche le cœur à chaque fois et les yeux de voir des groupes de rap ou de pop à un festival qui s'appelle Rock sur Truc. Alors nous, on restera un festival de rock sûr et sûr et sûr. Voilà.
Super. Eh bien, je vous remercie d'avoir été avec nous sur C-Lab et puis... merci.
Oui, merci beaucoup. Et on le rappelle, du coup, Rock-sur-Meux, c'est ce samedi dès 18h au confluent de Montfort-sur-Meux. 10€ la prévente, c'est ça ?
Exactement.
Voilà, c'est dit. Merci à tous les deux. Bon
festival.
Merci
beaucoup à vous.
Au revoir.
6h avant minuit.
T'as débuté ?
Thibaut, pour ta chronique d'aujourd'hui, tu nous proposes une super sortie au Champ Libre de Rennes.
Est-ce que vous connaissez les Champs Libres ? Alors si vous êtes rennais ou rennaise, sûrement. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, comme moi, il y a une semaine, les Champs Libres, c'est un lieu culturel situé à Rennes qui regroupe une bibliothèque, le musée de Bretagne, un espace des sciences et son planétarium, un auditorium, un café et une salle d'exposition, ça en fait des choses. Il a été conçu par l'architecte Christian de Porzamparc et il offre une programmation riche et variée tout au long de l'année. Et pour vous, cher auditeur, auditrice de Syllab, je suis allé voir une exposition s'intitulant « Vivre le sport ». Elle se déroule actuellement et jusqu'au 23 février au Musée de Bretagne. Cette exposition photographique a été créée à l'occasion des Jeux Olympiques de Paris 2024 et elle explore le rapport entre sport et photographie tout au long du XXe siècle. Elle est issue des collections du Musée de Bretagne. Les images proposent une approche sensible, esthétique et nous aident à créer des récits individuels et collectifs autour du sport. Bon, alors au début j'étais un peu sceptique parce que bon, aller voir une exposition photo à Rennes alors que je n'y habite pas, qu'il pleut et qu'il fait froid, je pense que grand nombre d'entre vous seraient restés dans son lit avec un chocolat chaud, une série Netflix. Oui. Mais bon, ma curiosité et ma passion pour le sport m'ont amené à découvrir le Musée de Bretagne et franchement, bah, j'ai pas été déçu. L'exposition, déjà, elle se décompose en 6 thèmes. Le premier, c'est que serait le sport sans les images, rencontre amicale, instant décisif, faire équipe, quand l'événement est sportif, et enfin, mémoire des supporters. Bon, je suis pas là pour vous refaire une visite de l'expo, hein, vous pouvez y aller vous-même, c'est gratuit en plus. Mais je vais quand même vous partager des photos, des anecdotes qui vont peut-être vous donner envie d'aller visiter les galeries. Tout d'abord, il y a une ambiance assez particulière, hein, parce que des enceintes diffusent à intervalles irréguliers des sons comme des chaussures qui couinent sur le sol, des ballons qui rebondissent. On se croirait presque dans une véritable salle de sport. La première chose que j'ai remarquée, c'est que bah, dès le début, l'exposition elle rend hommage au patrimoine sportif breton, hein, comme la piscine Saint-Georges, un magnifique lieu architectural où le bassin est recouvert de mosaïques. Puis, plus on avance, plus on découvre la place que prend le sport dans notre société, hein, une activité sociale hein, qui a permis l'inclusion comme l'arrivée des femmes dans le domaine sportif 50 ans après les hommes avec ce sport, la gymnastique. D'ailleurs, autour de la table, est-ce que vous connaissez le pourcentage de Français qui pratiquent du sport quotidiennement?
50%? La moitié?
On est un peu plus, on est à 60% en fait.
Ah.
Et en fait, on observe une baisse hein, depuis le Covid-19, surtout chez les jeunes, avec une chute de 5% depuis 2022.
Ces jeunes, toujours devant TikTok.
Donc, voilà, donc motivez-vous à faire du sport pour faire remonter, la pente, s'il vous plaît. Et dans le thème instant décisif hein, dont je vous ai parlé un peu plus tôt, bah, les photographies elles cherchent à montrer la complexité en fait, de la recherche du cliché parfait. En effet, à l'époque, on ne pouvait pas prendre autant de photos qu'aujourd'hui avec nos smartphones ou avec les appareils photo. Et surtout, on ne pouvait pas voir le résultat instantanément. Il fallait attendre bien plus longtemps, il fallait faire développer la photo. Donc quand on prenait un cliché d'un sportif et qu'on devait attendre 2 heures, 3 heures, voire même 24 heures avant de voir le résultat de la photo qu'on a prise, si on l'a loupé, bah, c'est mort. On apprend que le flou, qui a, au début était synonyme en fait, de cliché totalement raté, et bah, ça devient de plus en plus utilisé pour appuyer le mouvement des sportifs, l'effort. Mais la photo, elle ne se concentre pas seulement sur les sportifs. On a aussi les spectateurs, les supporters. Et c'est notamment ce que fera Charles Barnet, hein, c'est un photographe breton, qui cherchera à montrer l'envers du décor. On trouve aussi de magnifiques apparitions de notre drapeau régional, le Gwen Adu. Donc si vous ne le savez pas, je vous l'apprends, ce drapeau, il est inspiré du drapeau grec pour ses rayures et son rapport à la démocratie. Et les hermines, elles sont inspirées en fait des étoiles du drapeau américain pour la liberté du peuple breton. Bon, il y a un peu plus d'anecdotes autour de ce drapeau, je vous laisserai faire vos recherches. C'est très intéressant parce que j'ai fait des recherches complémentaires, c'est très intéressant l'histoire de ce drapeau. Enfin, une autre partie de l'expo hein, qui m'a vraiment particulièrement touché, c'est faire équipe. Car on l'oublie trop souvent, mais le sport, c'est avant tout l'union, malgré l'adversité. C'est se réunir, qu'on soit rennais, rennaise, nantais, nantaise, brestois, brestoise. Et c'est encore une fois la même chose pour les supporters. Chaque événement, c'est synonyme d'union et de joie. Exemple hein, de la victoire en Coupe de France de football de Rennes en 1971 et 2019. Hein, même si les deux dates elles sont très éloignées, le comparatif des photos des deux événements qui ont été faits du coup, dans l'exposition, elle montre que l'engouement est toujours là et le soutien aussi. Donc je le répète, hein, mais j'ai vraiment été surpris hein, parce qu'on en apprend bien plus sur la culture bretonne, mais aussi sur le sport régional. C'est une véritable expédition dans le temps. Donc encore une fois, rendez-vous au Champ Libre pour cette exposition qui s'intitule « Vivre le sport ». C'est gratuit et jusqu'au 23 février au Musée de Bretagne.
Merci Thibaut, mais on va y aller, hein. Ça donne vraiment très 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 envie.
Le téléphone.
Téléphone.
Allô, allô.
Syllab, la radio sauvage.
On a reçu un très beau message cette semaine.
Oui, ce serait pour faire une petite déclaration d'amour à ma chère et tendre bien-aimée, qui, grâce à elle, je vis et découvre la réalité du bonheur et d'être aimé, de c'est ce que c'est, du coup, l'amour véritable. J'aurais dû faire un grand et hommage pour ça et la remercier de chaque jour que l'on vit ensemble, le matin, du matin où le lever se lève, où chaque seconde où j'entends le timbre de sa voix, à nos grosses rigolades dès le matin, au soir quand elle rentre et quand on se fend la gueule ensemble. Et ça fait 3 ans maintenant qu'on vit ensemble et j'aimerais lui dire un grand merci. Je t'aime. Je ne sais pas si tu me reconnaîtras au téléphone, mais en tout cas, je te souhaite une belle journée. Je te dis Kounik.
Oui, Kounik. Si, si, je t'ai reconnu. Vous voulez faire pareil et nous laisser un message? Peut-être une déclaration d'amour, la même chose. Ah, je suis tous rouges. Un message à nous faire passer, un fait marquant, près de chez vous, un coup de gueule. Un retour sur nos reportages. Le numéro, c'est le 02 30 96 25 35. Il sera peut-être diffusé à l'antenne. Merci Eva pour la technique. On se retrouve dans une semaine, car la semaine prochaine, oui, c'est les vacances. Donc rendez-vous dès le 4 novembre. À bientôt.
Sauvage.
Quelle heure est-il ?
6h exactement.
Avant minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6h.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6h. Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du temps.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllabe.
La radio sauvage.